Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'émission au Capi Service en direct de l'Université catholique du Congo. Mongafula, sous vos applaudissements. Merci de participer à cette émission à l'occasion de la célébration des 75 ans des Nations Unies et de la Journée internationale de la paix. Merci aux camarades étudiants qui sont là nombreux, venus nombreux participer à cette émission. Et merci à l'équipe de production, Patrick Yassongwa, Polydore Bansunga, Marcel Ngombo, Tati Mapoukou, David Fungi, Pamela Lubaki, Asken Zigbia, sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Et dans cette deuxième partie de l'émission, nous allons parler de la contribution de la RDC dans le système des Nations Unies 75 ans après. Merci à vous, camarades étudiants, d'être là pour participer à cette émission de la vie au quotidien.
Les Nations Unies célèbrent ses 75 ans d'existence. 75 ans d'efforts inlassables pour la réalisation d'un monde meilleur. En 2020, quelle évaluation les peuples du monde peuvent faire pour l'idéal de l'ONU? Quelle est la contribution des acteurs politiques, économiques et culturels congolais à la construction de cette œuvre humaine? La Radio de la Paix vous propose des émissions spéciales à l'occasion des 75 ans des Nations Unies. Retrouvez-nous sur nos antennes, ensemble avec la famille de l'ONU.
Radio Okapi. Okapi Service, jeudi Daniel Kachama.
Eh bien, l'Organisation des Nations Unies fête son 75e anniversaire le 24 octobre prochain. Cette organisation, dont la charte est entrée officiellement en vigueur le 24 octobre 1945, a été mise en place quelques mois après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La RDC est membre de l'ONU depuis 1960. Elle participe aux discussions sur le rôle et les missions de l'organisation et influence aussi la mise en œuvre de ces programmes. Alors, quel bilan peut-on faire de la contribution de la RDC dans les systèmes des Nations Unies, 75 ans après? Monsieur Robert Mbuyu Kimpesa, bonjour.
Bonjour.
Voilà, vous êtes doctorant en droit international, vous avez plusieurs casquettes. Bon, alors dites-nous, quelle est la contribution de la RDC dans les systèmes des Nations Unies depuis notre adhésion à cette organisation?
Alors, puisque je suis en face d'un auditoire d'étudiants, notamment en droit, en sciences politiques et même en communication, la première des choses, c'est qu'il faut comprendre la place de la RDC dans l'ONU dans le cadre de ce que nous appelons la coopération internationale. Les États se sont mis ensemble, abandonnant une partie de leur souveraineté autour de ce qui va s'appeler l'Organisation des Nations Unies depuis 1945. Et la RDC fait...
Micro.
La RDC fait partie des premiers États qui ont adhéré à la Charte des Nations Unies. Depuis 1945, beaucoup ne vont peut-être pas se le rappeler, la RDC a apporté une large contribution à la vie des Nations Unies. Il faudrait distinguer, à mon avis, la période de la guerre froide. On est après 45, il y a la guerre froide entre l'URSS et les États-Unis. Très peu ont tendance à se souvenir que la RDC a joué un rôle primordial dans tous les conflits régionaux qui se sont posés en Afrique et même dans le continent. Le maréchal Mobutu à l'époque a été l'émissaire de la paix dans plusieurs pays d'Afrique. Nous avons envoyé nos troupes un peu partout en Afrique à l'époque de la guerre mondiale. Là, il y avait des problèmes, que ça soit en Éthiopie, etc. Il y a des places qui portent d'ailleurs des noms.
Ici à Kinshasa, des rues.
C'est
voilà.
Toujours dans le cadre de la coopération multilatérale au sein des Nations Unies. La RDC est intervenue dans plusieurs pays. Aujourd'hui, vous voyez, il y a des troupes de la MONUSCO ici, venant d'autres pays en RDC, mais la RDC est aussi intervenue ailleurs. La RDC, au plan de la pacification ou encore de la lutte contre les tensions raciales, la RDC a joué un rôle formidable dans la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. Le maréchal Mobutu a pesé de son poids contre le régime de l'apartheid. Et tout ça, il faut le lire comme une contribution dans le cadre des efforts de la paix et de la sécurité internationale. Et chaque fois que vous travaillez à la paix et à la sécurité internationale, vous êtes en train de contribuer à l'objectif même des Nations Unies. Je vais finir avec des exemples très récents. La RDC participe beaucoup au processus de réconciliation en Centrafrique. Le président Tshisekedi joue quand même un rôle dans la réconciliation entre les acteurs centrafricains. La police congolaise a été associée à des opérations de maintien de paix en Centrafrique. C'est vrai qu'il y a eu quelques couacs à la fin, mais ce sont des exemples concrets. Je cite aussi le rapprochement récent, la détente de la tension, disais-je, entre le Rwanda et l'Ouganda. Ça a été sous l'égide de la RDC et de l'Angola, bien que c'est des efforts régionaux. Considérez toujours chaque fois que les mécanismes régionaux de pacification et de paix et de sécurité s'inscrivent dans la logique globale des Nations Unies. Après, nous avons quelques difficultés pour nos contributions financières, etc.
Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la RDC a beaucoup d'experts dans les grandes organisations des Nations Unies à travers le monde? Monsieur Piaget Mpoto.
Ah oui, merci beaucoup, monsieur Jody Daniel Kachama, pour la question. Dire que la RDC a beaucoup de ses enfants dans les organisations internationales ou dans les organismes des Nations Unies, le Congo n'est pas du tout représenté dans les organismes internationaux. Eh bien, c'est un problème de la diplomatie, c'est un problème de politique diplomatique de la République démocratique du Congo. Alors, je crois que de ce côté-là, peut-être la diplomatie congolaise pourra travailler durement pour qu'on ait beaucoup de représentants dans différents organismes. Vous verrez ici, à Kinshasa, il y a beaucoup de West-Africains qui représentent les organismes des Nations Unies. Eh bien, vous verrez partout ailleurs. Eh bien, même lorsqu'il y a élection à l'Union africaine bientôt, on va élire le président de la Commission de l'Union africaine. Eh bien, vous verrez que la RDC ne va pas envoyer ses fils. La RDC ne donne pas la chance à ses fils de postuler à ces organismes. Et des fois, les offres arrivent déjà bien avant, mais on les affiche un jour de l'expiration ou de deadline de l'offre. Alors, jusque là, les Congolais ne sont pas du tout représentés dans les organismes ou dans les systèmes des Nations Unies.
Bien, merci. Mais selon les informations reçues, il y en a plein. Il y a plein de Congolais quand vous allez dans d'autres pays à l'étranger.
Moi, je pense qu'il y a des Congolais, mais je rejoins le docteur quand il dit que c'est peut-être la stratégie globale sur notre manière de nous affirmer dans les institutions qui pose des difficultés. Nous avons eu par le passé des diplomates les plus haut placés dans beaucoup d'organismes. Mais maintenant, on est dans une situation où le pays lui-même s'est affaibli dans le temps. Il faut reconnaître, des fois, certains Congolais ont du mal à reconnaître, on est un pays faible actuellement, qui sort de conflits, qui sort des moments difficiles. Comment repenser notre stratégie pour envoyer davantage de nationaux dans les plus grandes structures? Ça, c'est vraiment, c'est aussi ça le rôle de l'université, le rôle des intellectuels, de se poser la question, on fait comment pour résoudre cet obstacle? Parce que les autres régions, et vous avez raison, l'Afrique de l'Ouest, même l'Afrique du Nord, elle est très représentée dans les organisations internationales, mais chez nous, ça coince encore par rapport à la présence de nos cadres. Et nous avons des valeurs sûres au pays, certainement.
Monsieur Piaget.
Ah oui, j'aimerais réagir. Eh bien, que faire pour que le Congo soit représenté dans les organisations internationales? D'abord, il y a un problème. Le Congo ne paye pas les contributions au niveau des organisations internationales. Alors, si le gouvernement congolais peut prendre conscience pour qu'il paye
les contributions
dans ces organismes, et si on peut mettre une politique pour promouvoir les Congolais, les jeunes Congolais, les experts congolais ou les diplomates congolais, moi je pense que le Congo pourra...
Ça a même été évoqué lors du dernier conseil des ministres,
Oui, le président Félix a instruit le gouvernement pour que le gouvernement paye les contributions dans ces organismes internationaux.
D'accord, merci. Quelle est la contribution de la RDC dans les systèmes des Nations Unies? Des questions dans la salle? Y a-t-il des questions déjà? Oui, Tati, le micro, fais circuler le micro. Rapidement, votre nom, la promotion et posez votre question.
Merci pour la parole accordée. Je suis l'étudiant Nyumba Tsumbu, Jihad, de Master 1 droit privé droit judiciaire. J'ai deux petites questions. La première est celle-ci. La paix étant un élément essentiel pour le développement, l'ONU a mis en place des opérations de maintien de la paix, notamment opérationnelles ici chez nous en RDC. Ces forces, appelées casque bleu, au lieu de maintenir la paix à l'Est, se sont évertuées ces dernières années dans des scandales d'abus sexuels et d'exploitation sexuelle.
En d'autres termes, je pense que ça, c'est une question. On a déjà fini ce terme.
Je vais revenir pour les termes.
Et maintenant, on parle de la contribution de la RDC dans les systèmes des Nations Unies.
Je reviendrai. En d'autres termes, les sauveurs sont devenus des oppresseurs. Face à cela, quand attend l'ONU pour créer un tribunal international pour juger ses personnels auteurs de ces crimes? Et puis, par rapport au thème présentement abordé, ma question c'est de savoir quel est l'avantage pour un État d'être représenté au niveau international. Quels sont les avantages que nous pouvons avoir si nous sommes représentés au niveau international.
Merci pour la question.
Merci de la parole. C'est l'étudiant Louis Mbafouti Exocé, étudiant en droit, deuxième licence. La Bible dit, aucun royaume ne peut régner s'il est lui-même divisé. Et la sagesse apprend qu'une partie du corps a mal, c'est tout le corps qui a mal. Notre pays a depuis plusieurs années souffert et continue à souffrir avec les guerres à l'Est. Comment dans un tel contexte la RDC peut encore continuer de jouer un rôle pour la promotion de la paix et participer à la famille des Nations Unies? Telle est ma question.
Merci. Une autre question?
C'est l'étudiant Congolo Mimi Joseph, L3 philosophie. Ma question est celle de savoir, parce que je m'adresse au premier intervenant. Il a retracé vraiment l'histoire de la RDC, du temps de Mobutu, comment la RDC a participé ou bien a contribué au maintien de la paix dans plusieurs pays africains et aussi à plusieurs pays, disons, sur les plans continental ou international. Alors, je voudrais savoir, parce que c'est toujours mieux de rappeler l'histoire. Disons, la RDC a beaucoup contribué, c'est bien. Maintenant, je voudrais savoir pourquoi la RDC, qui fut un État fort pendant le règne de Mobutu et de nos jours, se trouve envahie par des petits pays, disons, comme le Rwanda, l'Ouganda et d'autres pays comme la Zambie, par exemple.
Merci. Tati, ici, il y a une dame ici. D'accord. Rapidement, oui, donnez votre nom, la question.
Je réponds au nom de Bertin Kassolois, étudiant en G3 philosophie, ici à l'ICC.
Oui.
Au fait, j'aimerais d'abord commencer par le concept de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. C'est un concept, d'après moi, qui paraît absurde et laisse cacher une certaine idéologie. On parle des Nations Unies, ce qui sous-entend que tous les pays membres de cet organe ont des principes qui les régissent et auxquels tous ces pays sont sur les mêmes pieds d'égalité.
Oui.
Mais le constat est que dans la prise de décision, ce sont les plus forts du point de vue économique qui priment dans certaines décisions. Voilà pourquoi lorsque l'intervenant a retracé l'histoire de la participation de la RDC aux Nations Unies, on a compris que c'est donc dans les premières décennies avec le règne de Mobutu et cette décennie récente, on ne ressent pas la participation de la RDC aux Nations Unies. La première question est de savoir, est-ce parce que le Congo est moins fort du point de vue économique? Ça, c'est la première question. De deux, je regrette du fait qu'à l'Est, ici chez nous,
oui,
il y a l'insécurité et il y a la MONUSCO. Et l'intervenant dit que la RDC, jusqu'alors, continue à contribuer au processus de la paix ou bien dans les Nations Unies. Comment expliquer que les Congolais, parce que d'après moi, si jusqu'alors l'insécurité règne à l'Est, parce que la plupart des casques bleus ne sont plus des originaires d'ici. Et il faut comprendre que dans la lutte contre l'insécurité, cette dimension-là patriotique compte aussi. Parce que lorsque vous prenez quelqu'un, moi, vous me déplacez pour aller lutter pour un autre pays, alors que chez moi, ça barde. Oui, eh bien, je vais m'abstenir, hein, certainement, parce que je ne vais pas mettre ma vie en danger pour d'autres. Mais au moins, au nom de l'humanisme, je peux le faire, au nom de l'humanisme qui m'importe.
D'accord, merci.
Oui, je n'avais pas fini la question. Ah,
ça, c'était juste l'explication.
Oui, c'était
d'accord, allez-y.
Alors, donc, j'aimerais que l'intervenant puisse nous expliquer qu'est-ce qui fait que les Congolais, là, qui ont tant contribué, qui continuent à contribuer, laissent chez eux sa barde ici. Comment expliquer ce phénomène?
Et puis, ils vont rétablir la paix ailleurs.
Oui.
D'accord, merci. Tati, micro ici, rapidement, et puis les intervenants
oui,
vont répondre.
La dame, et puis on va arriver.
Oui, c'est l'étudiante Nabine Tukayuka Paola, Master 2, droit, option, droit économique et social.
Oui.
Ma question s'adresse à Monsieur Roger. Il a dit qu'il y a des fois où la RDC arrive à intervenir pour le maintien de la paix dans d'autres pays africains, par exemple en Centrafrique, Rwanda ou Burundi, lorsqu'il y a des guerres et tout. Alors ma question est de savoir comment les autres pays peuvent faire confiance à la RDC pour appeler la police congolaise dans leur pays, alors que dans la RDC, c'est le chaos total. La police congolaise a du mal à maintenir la paix dans notre pays, dans son propre pays. Comment elle peut contribuer à la paix ailleurs? Et ma deuxième question s'adresse à l'autre monsieur, j'oublie le nom.
Monsieur Piaget Mpoto.
Oui, voilà. Dans la première partie, on a vu que l'ONU intervient non seulement pour maintenir la paix, mais aussi pour faciliter le développement économique à travers, entre autres, la création des agences. Alors, ma question est de savoir, lorsque nous voyons l'ONU créer des agences en RDC, on place le Congolais à la tête de ces agences pour le fonctionnement. Mais nous voyons que lorsqu'on place les Congolais à la tête, ils engagent leurs cousins, leurs tantes, leurs oncles, de sorte que pour faire partie de ces agences, il faut avoir des affinités. Alors ma question est de savoir sur base de quels critères les agences...
Est-ce que cette affaire des cousins, des frères, c'est vrai ou c'est juste quelques...
Non, c'est très vrai, c'est très vrai. De sorte que nous autres qui n'avons pas de connaissances à l'intérieur des agences, on n'a pas de chance. Alors ma question est de savoir quels sont les mécanismes que la RDC a mis pour choisir les personnes qui travaillent au sein des agences onusiennes. Merci.
Bien, merci pour cette première vague de questions. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Nous sommes à l'Université catholique du Congo à l'occasion des 75 ans des Nations Unies. Monsieur Roger Mbouyou, vous avez la parole.
Alors, je vais essayer de brosser la plupart des questions. Je ne vais pas me faire avocat de l'ONU. C'est vrai qu'il y a eu des cas de scandale, etc. C'est vrai aussi qu'il y a eu des poursuites parce que dans toute société, il y a de la discipline intérieure. Dans toute organisation, il y a de la répression. Même vous êtes ici étudiant à l'université. Votre université est l'une des mieux réputées au pays aujourd'hui. Mais s'il y a un problème, vous connaissez la procédure. Vous savez à quelles autorités s'adresser, etc. Donc, il y a des mécanismes. Mais je voudrais qu'on fasse un effort lorsqu'on est à l'université, chers étudiants, d'élever le niveau de nos discussions et de nos débats, parce que très souvent, à l'extérieur, les Congolais, nous sommes perçus comme des gens qui avancent des choses sans des évidences à côté. Si vous dites devant tout le monde que l'ONU en RDC... ce n'est que l'insécurité. On va vous demander de donner des preuves de la situation sécuritaire depuis 98. Je vais vous dire que si nous sommes dans cette salle et que nous sommes ensemble comme Congolais, c'est en grande partie grâce à l'ONU. Ça, il faut que nous soyons conscients et que nous regardions comment notre pays était en 98. Je le fais sans passion, sans intérêt, je ne travaille même pas pour l'ONU. Si nous sommes ensemble et que nous pouvons nous regarder jusqu'aujourd'hui comme des Congolais, c'est parce que cette mission de paix est quand même venue à un moment où tout était catastrophique. Je veux vous donner un simple exemple. Aujourd'hui, la priorité de l'ONU devrait s'atteler sur environ 3 provinces. Hein? Le Nord Kivu, le Sud Kivu et l'Ituri. Mais nous étions à un moment donné dans ce pays où même... le Congo central, les deux Kasaï qui ont été en feu encore il y a très peu, etc.
Avec Kamuina Nsapu.
Avec le phénomène Kamuina Nsapu, le pays était totalement embrasé. On est tous contents de ce qui s'est passé en 2013-2014, si je me trompe, avec la déroute du M23, la brigade d'intervention rapide a beaucoup joué aux côtés de troupes congolaises pour mettre fin au M23. Ça, c'est des exemples concrets qui vous montrent que sur le terrain des opérations, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Mais seulement, il faut arrêter le culte d'accuser l'autre. Il y a des implications extérieures dans les conflits congolais, mais je peux aussi vous dire qu'il y a aussi des implications internes parce que nos conflits ont pris une certaine nature sociale. On a des leaders communautaires. On a des ressortissants congolais qui sont eux-mêmes de manière directe impliqués dans tous les conflits que nous vivons ici au pays.
Alors revenons à la contribution de la RDC dans les Nations Unies.
L'avantage d'un État d'être représenté, c'est clair, la chaise vide ne paye pas. Vous devez participer aux discussions où on discute de l'avenir de l'humanité. L'ONU, c'est le cadre par excellence où les États se rencontrent. Il est important.
Merci d'ajuster votre micro, monsieur.
Il est important que nous ayons notre place sur la table. Le pays traverse des difficultés. Je vais dire simplement, ce n'est pas parce que vous avez échoué en première session que vous n'allez pas manger à midi. Ce n'est pas parce que le pays a des difficultés que le pays doit cesser de jouer son rôle en tant qu'État dans le concert des nations. Parce que quand vous allez en Centrafrique, quand nous participons en Centrafrique pour les efforts de la paix, il faut pas oublier que ce n'est pas que dans l'intérêt de la Centrafrique, mais c'est aussi dans notre intérêt qui est la paix en Centrafrique, pour qu'on ne se retrouve pas du jour au lendemain avec 800 000 ou 600 000 réfugiés qui vous viennent de la Centrafrique parce qu'il y a un problème. Donc aller sécuriser chez les autres, c'est aussi participer à la sécurité de notre propre pays.
Alors la dame s'interroge comment notre police qui n'arrive pas à assurer la sécurité des personnes et de leurs biens ici peut aller sécuriser ailleurs.
Encore une fois, vous serez très surpris si on vous dit que statistiquement le taux de criminalité à Kinshasa est inférieur par rapport au niveau de la population. Si vous comparez avec les grandes villes dans le monde, je prends l'exemple de la ville de Kinshasa, faites vos recherches. Vous allez vous rendre compte, je ne dis pas qu'on doit tolérer la criminalité, je ne le dis pas, mais vous allez vous rendre compte qu'en termes de criminalité, il n'y a pas ici autant de criminalité qu'à Lagos ou même dans une ville comme New York, en termes des incidents rapportés à la police. Parce que c'est vrai qu'on a des difficultés dans notre ville, mais ça ne nous dédouane pas de notre responsabilité, encore comme je disais au début, de veiller à ce que ça puisse bien se passer dans les autres pays. Je reviens sur la question de pied d'égalité des pays au sein des Nations Unies, etc. Vous avez fait un peu de cours d'histoire. Ça fait 75 ans que l'ONU est née. Il y a eu les conférences de Yalta, etc. Le droit international lui-même est assis, non pas que sur les principes idéaux, comme on le voudrait nous juristes, mais le droit international tient compte de la réalité internationale qui est régie d'abord par les rapports de force et les intérêts. Les États se réunissent. La guerre est terminée, la Seconde Guerre mondiale. Il y a des États qui ont largement contribué à la victoire. Les alliés, les États-Unis, l'époque URSS, la Chine, ces grandes puissances se mettent ensemble pour dire, pour qu'on évite des conflits dans le futur, il faut qu'il y ait un équilibre de force entre nous. Donc, cet équilibre de force qui existe de par la charte des Nations Unies, qui donne un peu plus de pouvoir à un certain nombre d'États, c'est dans le souci de préserver la souveraineté et l'égalité entre les États. J'ai envie de dire que c'est une inégalité consacrée pour protéger l'égalité, parce que ça ne sert à rien de dire on est tous égaux alors qu'on n'a pas les mêmes moyens pour répondre aux besoins de paix et de sécurité. Donc prenez ça comme une sorte d'exception pour permettre à la règle de s'appliquer.
D'accord.
Je vais terminer rapidement pour ceux qui ne le savent pas. La RDC était présidente du Conseil de sécurité, mais non membre permanent, lorsqu'on a déclaré l'opération contre l'Irak au Koweït. C'est le Zaïre à l'époque qui présidait le Conseil de sécurité comme membre non permanent. Pour vous dire qu'il y a quand même une rotation au niveau des pays non permanents du Conseil de sécurité pour permettre à tous les États de faire entendre leur voix dans le concert des nations.
Monsieur Piaget-Impoto, vous avez la parole.
Ok, merci beaucoup. Je vais d'abord commencer par la première question. Qu'attend l'ONU pour créer le tribunal international pour juger les casques bleus qui commettent les abus? Eh bien, ce que vous devez savoir, c'est que le pays contributeur des casques bleus juge eux-mêmes leurs ressortissants. Eh bien, d'après l'accord que le pays contributeur signe avec l'ONU, eh bien, il n'est pas fait mention à un quelconque tribunal qui jugerait le casque bleu qui commettrait de bévis ici en République démocratique du Congo. Alors, mais il y a des avancées, bien sûr. Bientôt, il y aura le tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo. Mais le problème, c'est que les Congolais sont encore dans la distraction. Le problème, c'est que les Congolais ne réfléchissent pas encore. Les Congolais, jusque là, nous sommes dans les conciliabiles, nous sommes dans les polémiques inutiles, nous sommes dans le tribalisme maintenant. Il suffit d'entrer sur Twitter pour voir, pour remarquer cela. Alors, je crois, avec le temps, la RDC, comme le Rwanda, aura un tribunal pénal international. Alors, pour répondre à la question de Congolo Joseph, pourquoi la RDC, qui fut un État fort, se retrouve aujourd'hui affaiblie? Oui, la RDC est affaiblie aujourd'hui, c'est parce que nous ne prenons pas l'avenir de notre pays au sérieux. Commençons par nous qui élisons nos députés, commençant par nous qui ne prenons pas nos études au sérieux, et commençant par notre diplomatie. Vous verrez, pour postuler dans un organisme international, il faut avoir un background. Il faut d'abord être diplomate, il faut avoir travaillé aux affaires étrangères. Mais vous allez remarquer que la plupart des diplomates qu'on voit à l'étranger sont soit les enfants d'eux, le neveu d'eux, et là, ça cause problème. Et lorsqu'il faut postuler...
Les gens qui ne sont pas du tout qualifiés.
Vous verrez, par exemple, en Chine, où j'ai été, il y a des diplomates qui ont fait 18 ans, mais qui ne parlent pas chinois. Vous vous imaginez, un tel diplomate va-t-il postuler lorsqu'on doit postuler et qu'on rencontre les gros calibres ouest-africains? Non, pas du tout.
Mais généralement, les diplomates sont polyglottes, ils parlent plusieurs langues.
Oui, mais c'est pas le cas avec les Congos. C'est pas le cas avec les Congos. Moi, je pense que tant qu'on continuera avec le clientélisme, tant qu'on continuera avec ce qui se passe aujourd'hui dans notre gouvernement, eh bien, je crois qu'il n'y aura pas d'avancée. Mais si notre gouvernement prend conscience, si le président de la République, si on met en place une politique diplomatique, on met en place une bonne politique étrangère de la République démocratique du Congo, eh bien, le Congo pourra demain récupérer sa place et on parlera du Congo comme grande puissance au niveau de l'Afrique.
Mais déjà, alors, au niveau de l'Union africaine, la RDC assure la vice-présidence.
Ah oui, oui.
C'est déjà une avancée significative.
Oui, parce que ça revenait à la sous-région de l'Afrique centrale. Et du coup, on a laissé cela à la RDC. Mais sinon, eh ben, le Congo doit... Et puis, le rôle de Félix Tshisekedi comme président de l'Union africaine est juste un rôle protocolaire. Il ne sera pas là pour diriger l'Union africaine tous les jours. Alors?
Mais... Au-delà du protocole, il ne faut pas négliger que le poids que ça représente de présider l'Union africaine. Il y a une réelle opportunité de relancer le pays sur la sellette et en même temps de faire avancer la stratégie du pays dans la région. D'accord. Parce que protocolaire fut-elle la position, elle peut toujours nous permettre de faire avancer notre agenda sur la scène régionale et internationale en même temps. C'est une question de stratégie, ça demande du temps, mais moi, mon message, parce que dans les questions des étudiants, on sent beaucoup de vindications, ça ne se donne pas ces choses-là. La puissance, le pouvoir, l'influence ne se donnent pas. Ils se construisent avec de la stratégie.
Et, il faut s'affirmer.
Et croyez-moi, croyez le docteur qui est en face de vous, ce n'est pas parce que nous crions chaque jour que les étrangers nous attaquent, tout le monde n'aime pas ce pays, tout le monde nous saute dessus, que c'est un argument à faire valoir sur la table.
D'accord,
nous devons être capables
nous-mêmes
de développer notre intelligence collective et de dire voilà ce qu'on peut faire pour avancer.
Monsieur Piaget, une question. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que la RDC renforce sa présence, sa contribution dans les organisations du système des Nations Unies?
D'abord, payer ses contributions parce que nous sommes en retard, alors en grand retard en termes de contributions dans les organismes internationaux. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je pense qu'il faut que ça soit clair dans la politique étrangère de la République démocratique du Congo qu'on mette ou qu'on mette en place une politique de placement des Congolais dans la fonction publique internationale, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Nous espérons qu'avec le gouvernement actuel, les choses pourront bouger.
Voilà, il semble que certains Congolais, quand il y a des rencontres internationales, on envoie les personnes on envoie pas les bonnes personnes. Et pendant que les gens sont en train de discuter, bon, ils vont faire des achats à gauche, à droite.
Ah oui.
Vous avez certainement entendu parler de ces genres de choses.
Ça, je l'ai vécu à Pékin. Vous voyez les diplomates qu'on envoie pour négocier, les diplomates qu'on envoie pour suivre une formation. Eh bien, la plupart ne parlent pas anglais. Ils vont dans un pays anglophone, mais ils ne parlent pas anglais. Comment vont-ils parler? Comment vont-ils défendre les intérêts de la RDC? Alors, quand ils vont là-bas, pendant les heures de séance, ils sont dehors avec nous étudiants, et ils nous disent, est-ce que je peux acheter un téléphone pour les enfants? Est-ce que je peux acheter l'iPad, telle chose pour mon retour au pays? Alors, c'est ça aussi le grand problème. Moi, je crois qu'il faut une prise de conscience au niveau national pour que chacun puisse contribuer à sa manière à l'élévation de la République démocratique du Congo.
Quelle est la contribution de la RDC dans les systèmes des Nations Unies? Y a-t-il d'autres questions? Voilà, Tati, rapidement, vous avez la parole.
Merci, merci pour la parole. Je me nomme Chombo Daniel, étudiant en première année de master faculté d'économie. Je tiens également à souligner qu'il y a des étudiants de la faculté d'économie ici présents. Alors, ma question est celle de savoir... Disons, vous avez parlé de la place de la RDC, disons, parmi les nations, au sein des Nations Unies. Alors, vous avez parlé parler de l'avenir de l'humanité. Alors, je me dis, est-ce que... ma question est celle de savoir, la RDC ne gagne-t-elle pas plus qu'elle ne perd de par sa présence au sein des Nations Unies? La RDC ne devrait-elle pas être un peu plus égoïste? J'ai pas, disons, en termes économiques, parce que ne savez-vous pas que l'avenir de l'humanité, tel que vous l'avez dit, c'est, disons, les forêts de la RDC qui vont permettre réduire permettre de réduire les
effets du changement climatique.
Ce sont les eaux de la RDC qui sont utilisées pour produire de l'électricité, l'hydroélectricité et toute autre chose concernant nos minerais et consorts. Alors ma question est celle de savoir, la RDC ne perd-elle pas plus qu'elle ne gagne de par sa présence au sein des Nations Unies?
Merci. Merci pour la question. Tati, rapidement.
Merci, Pasteur Siwa Kiosim. Je suis éthicien, doctorant en morale. Ma question, la RDC ne participe pas ou bien ne contribue plus. Mais aujourd'hui, nous célébrons 75 ans de l'ONU. Je veux seulement savoir pourquoi. Alors, la RDC contribuait, mais cette fois-ci, elle ne contribue pas.
D'accord, merci pour la question. Y a-t-il d'autres questions dans la salle, au fond de la salle? Oui.
Merci, c'est l'étudiant Philippe Nabina, DEA Philosophie. Je pense que à la place de dire la RDC, qu'est-ce que la RDC doit donner à l'ONU? Moi, je pense qu'il fallait dire
qu'elle reçoit
la RDC des Nations Unies. Je me justifie. Nous donnons beaucoup aux Nations Unies. Ils vont me dire qu'est-ce que nous donnons. À travers tout ce qui se passe à l'est du pays, premièrement, ce sont nos minerais qui s'envolent. Et nous connaissons les destinations. Peut-être pas avec précision, mais nous écoutons dans des médias, il y a des rapports qui sont fréquemment publiés et qui sont diffusés à travers les médias internationaux que nous suivons.
Ça va où?
Alors, ici, qu'est-ce que nous recevons des Nations Unies? N'est-ce pas seulement les humiliations? Parce qu'aujourd'hui, ils nous ont envoyé la MONUSCO. Je vais juste pour atterrir, analyser ces concepts-là, parce qu'ils jouent avec nous peut-être à travers les concepts. MONUSCO, mission d'observation, n'est-ce pas? Ils sont là pour observer ce qui se passe. Mission d'observation. Ils ont fait longtemps
mission
au pays.
Mission de stabilisation,
Oui, observation, stabilisation, tout ce que vous pouvez dire, j'accepte. Alors, ils ont fait longtemps chez nous. On ne voit rien parce que je ne vais pas les incriminer, dire que ce sont eux qui devraient mettre la paix à l'est du pays. Mais leur présence s'avère aussi essentielle.
D'accord.
Pourquoi la MONUSCO n'a pas le courage de dire que j'ai échoué, je dois partir chez moi?
Bien. Merci pour la question, Tati. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? D'après lui, on ne devrait pas poser la question de dire quelle est la contribution de la RDC, mais qu'est-ce que la RDC doit recevoir?
Merci beaucoup.
Bonjour, monsieur.
Bonjour. Je suis Isaac Kabea, Master 2 communication.
D'accord.
J'ai quatre petites questions.
Quatre?
En fait, le premier,
alors,
c'est un constat.
Alors.
J'ai constaté que les intervenants réduisent la participation de la RDC seulement à la représentativité humaine. Alors que notre pays ne contribue pas seulement par sa représentativité humaine dans les, dans les organismes internationaux. Il y a encore d'autres moyens que la RDC peut procurer. Et c'est ça mon premier constat. Et la deuxième question, c'est, en fait, je me demande, en termes de participation, c'est la RDC qui doit s'approcher des organismes internationaux ou ce sont des organismes internationaux qui doivent s'approcher de la RDC pour chercher des personnes qui peuvent participer dans leurs activités. Et la troisième, je me demande, on a déploré le fait que la RDC n'est pas représentée dans les organismes internationaux. En fait, c'est une faiblesse que vous avez repérée, mais j'aimerais savoir qu'est-ce que les organismes internationaux comme le vôtre, l'ONU, qu'est-ce que vous avez pu faire pour résoudre ces problèmes-là? Et ensuite, je me demande qu'est-ce que l'ONU attend spécialement de la RDC dans ses activités. Donc c'est ça en fait.
Merci. Tati, il y a une dame à vos côtés qui veut poser une question. Allez-y rapidement.
Merci pour la parole. Je suis Kilenga Pania de L2CS. J'ai une question au monsieur.
Monsieur Piaget qui
oui.
est.
Pardon, j'ai oublié votre nom. Pardon.
C'est monsieur Piaget.
Oui, j'aimerais savoir. Bon, vous avez parlé de la représentation. De l'RDC, donc la faible représentation de la RDC à l'étranger, par exemple bon, en ce qui concerne l'ONU.
Et dans les organisations internationales.
Voilà. J'aimerais savoir qui doit payer au fait cette contribution. Vous avez aussi parlé de la contribution. Je ne sais pas si c'est une structure ou encore une personne qui doit la payer. Et deuxièmement, J'ai un avis contraire par rapport à ce que Monsieur Roger vient de dire, en fait, par rapport en ce qui concerne le taux faible de criminalité ici en RDC. Au fait, je remets en doute ces rapports. Pourquoi je remets en doute cela? Parce que il est arrivé deux fois où surtout pendant les marches au moment des élections. On nous coupe d'abord de la connexion et après il y a l'inspecteur général de l'époque qui publie que non, la marche, il n'y a pas eu des morts. Et après cela, lorsqu'il y a la connexion, on voit des photos des morts. Et je pense que la police congolaise ne devrait pas aussi aller sécuriser les autres parce que nous-mêmes, on ne se sent pas en sécurité avec eux. Je ne pense vraiment pas qu'ils doivent être à l'extérieur. Ils doivent revenir ici pour nous sécuriser aussi. Merci.
D'accord, merci. Monsieur Piaget, vous avez la parole.
Ok, merci beaucoup, madame, pour la question. J'aimerais d'abord dire que la RDC n'est pas un enfer. Il suffit de voir les casques blés de l'ONU qui viennent du Pakistan. Vous connaissez l'histoire du Pakistan, lorsqu'on parle d'Islamabad, eh bien, ce sont des bombes. Mais pourquoi ils ne sécurisent pas leur pays? Pourquoi ils viennent au Congo? Parce qu'aucun État ne se suffit à lui-même. Parce qu'aucun État ne peut vivre dans l'autarcie. Parce qu'il doit y avoir coopération internationale. Parce que les États doivent coopérer. Alors, la RDC ne perd rien en étant membre de l'ONU. Vous vous souviendrez, tout juste après l'indépendance de la RDC en 1960, eh bien, il y a eu crise politique au Congo. Il y a eu tentative de sécession. Alors, l'ONU est arrivée au Congo, l'ONU a stabilisé le pays. Et voilà, c'est un avantage d'être membre de l'ONU. Et en 1998, lorsque nous étions agressés par les pays voisins, entre autres le Rwanda et l'Ouganda, eh bien, c'est l'ONU qu'à l'époque qui est venue mettre tout le monde sur la table, qui est venue faire en sorte que l'accord de cessez-le-feu soit respecté. Mais s'il n'y avait pas l'ONU, et si on n'était pas membre de l'ONU, si la RDC n'était pas membre de l'ONU, eh bien, mais qui viendrait alors mettre tous les belligérants ou tous les protagonistes sur une même table? Alors, la RDC gagne en étant membre de l'Organisation des Nations Unies. On ne perd rien. Alors, aussi, pourquoi la RDC contribuait avant et aujourd'hui ne contribue pas? Est-ce que la RDC, peut-être parce qu'elle se voit négligée ou parce que la RDC est victime de l'injustice au niveau international? Oui, mais on ne se fait pas cadeau au niveau international. Les États ne se font pas cadeau. Si la RDC ne payait pas avant et ne paye plus aujourd'hui, moi je ne crois pas que c'est parce que la RDC subit de l'injustice. Non. S'il faut voir la configuration africaine, c'est le Congo, c'est la RDC qui a beaucoup plus bénéficié de l'apport des Nations Unies que tout autre pays. L'ONU a été en Angola, l'ONU a été en Namibie, l'ONU a été au Sahara occidental, l'ONU est en RDC. 20 ans déjà, vous imaginez, avec un budget de pratiquement 1 milliard de dollars par an. Et avec plus de 20 000 casques bleus, 20 000 personnels de l'ONU ici au Congo. Alors, le Congo bénéficie beaucoup. Le Congo continue à beaucoup bénéficier de l'ONU. Et la RDC a besoin de continuer à rester comme membre des Nations Unies. Alors, vous voulez dire pourquoi la MONUSCO ne dit-elle pas qu'elle a échoué? Pourquoi la MONUSCO ne prend pas ses courage? Non, mais ça ne se passe pas comme ça. Et aussi, la MONUSCO n'est pas l'État congolais. La MONUSCO n'est pas le gouvernement congolais. Lorsqu'on n'a pas une armée forte, lorsque nous trahissons notre pays, lorsque nous allons créer des groupes armés pour mettre de l'insécurité dans notre pays. Mais la MONUSCO ne peut pas faire autre chose. La MONUSCO ne peut pas faire des miracles, opérer des miracles ici au Congo.
Monsieur Roger Mbouyou, vous avez la parole.
Alors, je vais essayer de rappeler quelque chose. La question des marches, la criminalité liée, attention, je ne parle pas des violations de droits de l'homme, ni des crimes commis lors des manifestations, c'est un autre volet. Donc, il faut bien analyser le discours quand on le prononce. Je n'ai pas parlé des questions de droits de l'homme, et même en termes de liberté d'expression, faites un tour en Afrique centrale, allez à Brazzaville et critiquez le pouvoir, traversez en Centrafrique, en Angola, vous verrez. Je vous donne un TP. Visitez les pays voisins et essayez de passer dans une chaîne de télé pour critiquer leur pouvoir en place. C'est un exemple que je vous donne pour la question des droits qui sont protégés ou pas en RDC. Vous reviendrez, vous me donnerez des nouvelles. Qu'est-ce que l'ONU attend de la RDC? Je ne suis pas membre du système des Nations Unies. Je ne sais pas répondre à cette question-là. Les problèmes de représentativité dans les organisations, etc., je vous ai dit que c'est une question de temps et de stratégie. Il faut espérer que les stratégies idoines se mettent en place par rapport à cela, que reçoit la RDC de l'ONU. Chers étudiants, je veux que nous soyons honnêtes par rapport à la manière d'analyser notre pays. Les Nations Unies ont fortement contribué à ce que nous conservions aujourd'hui notre intégrité territoriale. Est-ce que leur mission en RDC a été parfaite? Non, parce qu'il y a eu des couacs comme dans toute entreprise humaine. Mais est-ce que c'est aux Nations Unies qu'il revient en premier la responsabilité de nous protéger? Non, parce que dans toutes les résolutions des Nations Unies, J'aurais bien voulu qu'il y ait ici des gens qui aient la résolution 2502, notamment qui prolonge le mandat de la MONUSCO sur une année. Vous verrez que dans les principes, on réaffirme toujours que c'est en premier lieu au gouvernement de la République démocratique du Congo qu'il appartient la responsabilité de protéger ses citoyens. Donc personne ne le fera à notre place totalement. Donc il y a toujours une synergie qui doit être exercée. Mon plus grand regret, je vais le dire parce que vous pensez que je défends toujours, mon plus grand regret pour moi au niveau de la MONUSCO, si je peux analyser froidement, c'est la FIB. La FIB, c'est la brigade d'intervention rapide. Si vous regardez le mandat de la brigade d'intervention rapide, j'aurais voulu réagir tout à l'heure lorsque le représentant de l'UNESCO a parlé, la brigade d'intervention rapide a un mandat clair et sans équivoque. Ils ont la possibilité d'engager le combat. Ils ont le droit, mais seulement au Nord Kivu. C'est encore ça, les subtilités du droit, etc.
D'accord.
Au
Nord Kivu. Monsieur Roger, oui. Quelqu'un a dit tout à l'heure que la RDC contribue déjà largement avec sa forêt, qui est devenue même un poumon.
Pour les personnes qui parlent de forêt, etc., c'est une question.
Par rapport à l'environnement.
C'est une question sur laquelle je travaille avec l'université d'Helsinki notamment, sur les questions de forêt, etc. Ne nous y trompons pas. Tous les accords internationaux aujourd'hui en matière d'environnement, etc., ne récompensent pas la nature. Ils financent ce qu'on appelle la performance. Je fais un petit résumé. Ça veut dire quoi? On ne viendra pas vous donner de l'argent parce que, vous voyez à la télé, vous avez des gens qui passent souvent parce qu'au Congo, tout se pense en opposition et pouvoir. J'aimerais qu'on élève le débat au niveau intellectuel. C'est pas opposition et pouvoir. Même si vous avez la première des forêts, aujourd'hui les Gabonais qui n'ont pas autant de forêts que nous et les Camerounais touchent plus d'argent que nous de l'aide internationale. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'on finance la performance. C'est-à-dire, on ne dit pas c'est vous qui avez la plus grande forêt. On dit chez vous la quantité que vous avez déjà exploitée, voilà, vous avez contribué à reboiser ou à protéger la forêt à tel niveau. Alors, eux, bien que c'est des petites quantités, mais ils le font bien et ils reboisent assez facilement, c'est comme ça qu'ils touchent plus d'argent que nous. Nous, on a une grande forêt, les autres disent, nous, on ne va pas payer parce que Dieu vous a donné une grande forêt. On va payer si on se rend compte que vous arrivez en même temps à exploiter, à protéger, à reboiser, etc. Donc, il faut éviter des discours du type, on nous a dit, le Cameroun a reçu plus d'argent que nous, alors que nous, on a plus de forêt que non. C'est une question de performance. Donc, comment est-ce que l'État congolais lui-même dans le secteur forestier exploite et entretient de sorte à revendiquer les financements prévus? Et même dans ce secteur-là, parce qu'il faut voir les guerres d'avenir, l'eau. Vous avez suivi une déclaration récente du président tchadien. Les Tchadiens ont dit clairement qu'avec ou sans l'accord de la RDC, ils vont prendre l'eau sur le fleuve Congo.
Mais la RDC a dit aussi qu'on ne va pas donner.
Aura besoin dans ce débat-là qu'une organisation comme l'ONU soit sur la table pour éviter qu'on en arrive au conflit.
D'accord.
Parce que les prochaines guerres vont certainement se jouer
tourner autour de...
sur les forêts et l'eau, etc. C'est pas le moment d'être seul dans son coin, c'est le moment d'être assis à la table avec tout le monde.
Quelle est la contribution de la RDC dans les systèmes des Nations Unies ou comment renforcer la contribution de la RDC? Nous allons prendre la dernière vague de questions avant de clôturer cette émission. Oui, allez-y monsieur, rapidement.
Merci beaucoup. C'est l'étudiant Esambo Shinawake, Moses. Quelle politique budgétaire pensez-vous adéquate, n'est-ce pas, que la RDC pourrait adopter pour qu'elle arrive
renforcer,
à contribuer, n'est-ce pas, régulièrement et à temps
oui.
aux organisations internationales.
Voilà. Merci.
Merci.
Monsieur Roger Mbouyou, vous avez la parole.
Pourquoi défendre le rôle de l'ONU en RDC? La question ici, c'est pas pourquoi défendre le rôle de l'ONU en RDC. La question, c'est de se poser la question d'abord, pour ceux qui demandaient le rôle de l'ONU en RDC, quelle était la mission de l'ONU en RDC? Ça, il faut la connaître. Il faut lire les résolutions du Conseil de sécurité où dans le mandat on dit certaines choses claires. Il y a des règles d'engagement que vous pouvez trouver peut-être non-sens. Mais un soldat casque bleu, si on lui dit qu'il ne peut pas intervenir sur la ruelle en face, autant son côté humain peut faire qu'il pleure pendant qu'il y a des atrocités de l'autre, il sait que même le gouvernement ne lui permet pas. Je donne un exemple. La brigade d'intervention de la MONUSCO, l'ONU et la RDC ont demandé ensemble qu'on puisse élargir les troupes. Mais lisez la dernière déclaration de nos propres alliés, la SADC, le sommet de mi-août. La SADC va dire qu'il n'est pas pertinent d'élargir les troupes à d'autres pays. Dans les relations internationales, il y a des intérêts qui se jouent entre les États. L'ONU que vous voyez doit être ONU, et pour nous, et pour nos voisins, et pour les autres pays. Donc l'ONU n'est pas dans le camp de la RDC, mais l'ONU est dans le camp de tout le monde. Et comme l'ONU est dans le camp de tout le monde, nos propres intérêts à nous en tant que RDC, il n'y a personne qui peut les sécuriser mieux que notre intelligence collective et notre manière à penser notre pays. Donc ne donnez pas la mission à l'ONU de remettre la RDC sur la liste des pays les plus puissants au monde. Ne donnez pas à l'ONU la mission de mettre la RDC sur la liste, je ne sais pas moi, par un coup de baguette magique, ce n'est pas leur mission.
Monsieur Roger, certains fustigent le fait que notre police intervienne dans la République centrafricaine. Et pourtant, vous avez dit tout à l'heure que c'est déjà un pas, un grand pas.
Ce n'est pas parce que vous êtes malade que vous pouvez vous empêcher d'emmener une contribution dans une famille éprouvée dans le quartier. Il y a des gens qui attendent de devenir milliardaires pour aider les autres. Ce n'est pas parce que vous mangez une fois par jour que vous allez offrir la première fois le pain à quelqu'un le jour où vous pourrez manger trois fois par jour. C'est-à-dire, il y a toujours moyen, dans les difficultés que nous vivons, de répondre. Et puis, il y a d'autres choses dont on ne se rend pas compte. Quand vous envoyez des policiers, ils vont en mission d'intervention. Ils travaillent avec les standards de l'ONU. Ils ont été mis à niveau. Ils ont été formés. Ils ont été même équipés. Il y a toujours des mécanismes qui permettent que le retour d'expérience revienne sur votre pays.
Monsieur Piagène-Poto, dites-nous, qu'est-ce qu'on doit faire pour renforcer la présence de la RDC dans les organisations internationales?
Oui, la RDC doit mettre en place une politique pour envoyer toutes ces organisations et surtout aller au niveau, être envoyé comme responsable de ces organisations dans différents pays, ici en Afrique et partout dans le monde. Il faut une bonne politique étrangère, c'est ce qui nous manque ici en République démocratique du Congo. On a une diplomatie, mais on manque de politique étrangère. Voilà.
Bien, nous disons merci à Monsieur Piagène-Poto, qui est docteur en relations internationales. Merci également à Monsieur Roger Mbuyu Kimpesa, doctorant en droit international. Est-ce qu'on peut applaudir très très fort pour nos intervenants? Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission de La Vie au quotidien au Capi Service en direct de l'UCC Mongafula. Merci, camarades étudiants, d'avoir participé à cette émission de La Vie au quotidien. Merci à toute l'équipe de production, Patrick Kiasongwa, Polydor Bansunga, Marcel Ngombo, Tati Mapuku, David Vunji, nous avons Pamela Lubaki. Et merci à Jean-Marc Matois qui pour la supervision. Et merci à vous, chers étudiants, d'avoir participé à cette émission au Capi Service, émission spéciale en direct de l'UCC Mongafula. À la prochaine!